Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h05, on y revient au Mastic, on est dans le Super Moscato Show. Comme tous les jours, vous le savez qu'on est là de 15h à 18h, du lundi au vendredi, toute l'année, pour 250 émissions et des podcasts, comme si il en pleuvait des millions et des millions. Nous sommes avec une fille, une petite bolette, une fille de la bolle, Sarah Piposki. Comment ça va ?
Salut à tous. Je me cache de ce soleil, même à la boule, voyez-vous.
Ah oui, oui.
Je suis en train de suffoquer. Bah oui.
Tu suffoques. Mais un peu d'air là-bas, je suis à la boule.
Non. Bah même pas. Mais hein. Heureusement que tu es là pour me donner de l'air.
Mais écoute, oh, ça c'est bien dit. Toi, quelqu'un qui a fait du tennis comme toi, qui est archi-millionnaire, tu dois avoir des gens. Tu sais, comme ça, comme dans les Obélix, tu sais, en Égypte, on a des gens.
Oui, exactement,
qui font du
avec
vent,
Cléopâtre.
Avec des feuilles de palmier.
Exactement.
J'avais des feuilles de palmier.
Exactement.
Voilà.
Absolument, ils sont là. Je n'ose leur donner le micro, mais effectivement, c'est tout à fait ça.
Avec les éventails. Fouette-les en attendant, voilà. Parce qu'il faut. Voilà, hop. On voit qui parfois aussi lui brasse de l'air. Denis Charvet, comment il va?
C'est bien.
Ouais, ça va, vous pouvez.
C'est gentil. Belle introduction. Moi, j'en forme. Écoute, ouais. J'ai croisé des copains du rugby. Donc, t'as le bonjour de Yann Delègue, Léon Lioupi, Jean-Charles Royoli, Tesser, Carbonel. Voilà. Je les ai croisés hier. Ils nous écoutent tous, tout le temps.
Yann, il n'a pas attendu les canicules.
Ils ont participé à un café philo.
Non, ah bah oui, c'est gentil. Alors, Yann Delègue est content de toi parce que t'entends sa femme lui rappelle, mais dis-moi, parce qu'à toujours ce qu'il dit, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai qu'il a dit.
Lui, il a pas attendu la canicule pour être chaud de la lance, je te le dis. Oh, le Yann, il est pas feignant, la bête. On l'embrasse, Yann, bien entendu. Adrien, comment ça va?
Comment ça va, les amis? Question. Bah, très bien, chaudement, comme on dit, chaudement. Ah, oui. Ma grand-mère, elle disait ça, chaudement. Ça va, chaudement.
Chaudement.
Elle
devait avoir l'accent, ta grand-mère. Parce
elle
que,
avait l'accent.
Ouais, ça se fait que t'as pas l'accent.
Mais si je l'ai,
c'est un parisien. Tu le sens, Piro, tu le sens qu'il a l'accent?
Mais non, il a pas l'accent, tu sens que parisien. Il fait des questions moyennes sur l'OM, un jour sur deux.
C'est vrai que je suis un peu parisien, c'est vrai. Bah oui, 22 ans de vie à Paris, tu te convertis quand même.
T'as failli à Boston.
Ça s'est pas bien passé. Il est 15h07, c'est la tradition, la question moyenne. Crossover entre nos deux sports favoris dans le Moscato Show. Quel est le plus probable dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent? L'équipe de France de foot est championne du monde. Ouais. L'équipe de France de Kylian Mbappé est championne du monde. Ou le MHR est champion de France samedi face au Stade Toulousain.
C'était sûr que tu allais poser cette question.
Ah oui. Aïe. Quel est le plus probable? Montpellier sur un match s'impose face à Toulouse.
Les deux sont très compliqués.
Alors, y a, pour les Bleus, il y a un match de poule et cinq matchs à élimination directe à passer les Bleus de
ça,
Mbappé.
C'est ça, parce que là tu fais un mauvais match, tu vas au pénalty, tu peux te faire rétamer contre une équipe qui est moins bonne que toi.
Pendant le MHR.
Je pense que le MHR.
Sarah.
Rugby.
Montpellier, parce qu'il n'y a qu'un match à jouer, donc quitte à ce qu'il y ait une surprise, ça peut se faire sur un match.
Montpellier.
Vous avez une grande conviction quand même. Pierre Dorian.
Non, pas une grosse conviction parce que t'as une équipe. Elle est championne du monde. Mais...
Montpellier, on a compris. Voilà. C'est 60 en
là,
finale.
Là, on fait des probas. Hein.
Donc, la France championne du monde. Une question d'être content ou pas content de
60,
moi.
60, carrément.
En fait, vous savez quoi? Pendant un mois, on a perdu les pédales. C'est-à-dire que toute l'année, on a vu qu'il y avait une équipe et les autres. Mmh. Pendant un mois, quand ils étaient qualifiés, bon, ils se sont mis à bafouiller, squat. Mais là, on est revenu à la normale, 60 en finale.
La France du Moscato Show, qui connaît le mieux le sport que personne, répond à 63% l'équipe de France de foot championne du monde.
Ce serait bien.
Bernard va pas être content, Denis. Bernard va vraiment pas être content.
Il serait content, Bernard, que la France soit championne du monde de foot.
Oui, bien sûr.
Mais il serait la déception de la finale, quand même, non?
Tout à fait. Ce serait quand même.
De toute façon, il n'est pas montpelliérain, Bernard. C'est un parisien aussi.
Bernard, très parisien.
Non, il a de la famille à côté. Il a une cousine avec une morte. Il a
de la famille
de temps
en temps.
Allez, Pierrot.
Allez, Mbappé est-il enfin un bon capitaine? Voilà un bon débat pour démarrer le Super Moscato Show. Et puis. puis le foot, c'est aussi à 17h l'Olympique de Marseille, recalé lors de son premier passage à la DNCG. L'OM est-il en dessous de tout? C'est à 17h, vous aurez les infos de Flo Germain. Et puis le rugby, c'est à 16h avec 4 titres consécutifs. Cette génération du Stade Toulousain deviendrait-elle la meilleure équipe de l'histoire du championnat de France? Vincent Moscato règle le problème. Il y a des belles équipes, attention.
Ah, on va pouvoir en parler. Rappelle-toi que si 40 ans que ça, il y a du grand Béziers.
Il y a 10 titres.
C'est 10 titres. Ouais. C'est 10 titres.
Il y a un autre Stade Toulousain qui a eu 4 titres de champion consécutivement.
Ouais, dans les années 90.
On va en débattre à 16h. Journal moyen, première édition, 15h45.
Le projet fou du nouveau stade de Manchester United. Je vous raconte tout à 15h45. C'est incroyable. Et puis, je sais que vous aimez les petits bonbons sur la vie privée du Moscato Show, nos échanges, les boulettes de Vincent. Je vous ai parlé la semaine dernière des problèmes de SMS de Vincent. Il envoie des SMS là en ce moment régulièrement aux mauvaises personnes. Là, soyez bien présents à 15h45. Tout ce que je vous raconterai, c'est vrai. J'ai même un message vocal à vous diffuser. Vincent a eu un petit moment de flottement sur l'utilisation de sa carte bleue. Et notamment, on n'en dit pas plus
c'est
de nous, notamment de l'utilisation de ce qu'on appelle le sans contact. C'est magistral. Rendez-vous à 15h45. Vincent, tu as des ressources, mais inépuisables. Merci beaucoup. Merci Eric d'avoir balancé.
La prime de match RMC grimpe. Elle n'en finit plus de grimper. Elle est désormais à 40 000 euros. Alors, vous le savez, si on vous appelle et que vous avez le bon montant de la prime de match RMC, elle est pour vous. Donc, si on vous appelle, il faut dire absolument que la prime de match est de 40 000 euros. Et pour vous inscrire, et ben ça va être dans cette émission. Vous aurez l'occasion d'envoyer but par SMS au 732-16. On vous dira quand exactement. Ne ratez pas l'occasion, parce que la semaine dernière, Vincent a fait gagner 67 500 euros. Ok ? C'est comme ça le Moscato Show.
Il est comme ça, Vincent.
Ah oui, on a la même verte, mais comme le dollar. Tu vois, ouais. Le billet vert.
Et avant Mbappé, la Coupe du Monde des Bleus est marquée par le décès de la mère de Didier Deschamps. Alors du coup, le sélectionneur a dû quitter le rassemblement à Boston. Et il a quitté même les États-Unis, évidemment, provisoirement. Florent Germain va nous en dire plus. Salut Flo.
Salut Pierrot. Salut à tous.
Alors,
salut
Flo. Quand est-ce qu'il revient et comment on fait pour préparer le match de la Norvège?
Oui, bah c'est vrai, une nouvelle qui a forcément beaucoup affecté l'équipe de France. Alors Didier Deschamps a réuni le staff et les joueurs juste pour raconter hier, donc au retour du match à Philadelphie, pour leur expliquer que il allait devoir retourner en France suite au décès de sa maman, afin d'être à côté de ses proches, de sa famille et d'assister évidemment aux obsèques. Donc c'est Guy Stéphan, son adjoint de toujours, qui prend la relève, qui animera les séances d'entraînement. Évidemment Didier Deschamps restera à distance en relation avec le staff. Hier on a vu notamment une minute de silence émouvante à la Bentley University avant le petit match amical. Et aujourd'hui, il devait y avoir une conférence de presse, une prise de parole, et l'équipe de France, la fédération, a décidé que vu les circonstances, il n'y aurait pas d'interview de joueurs et juste un entraînement à huis clos. Demain, ce sera Guy Stéphan, donc en conférence de presse. Il assurera également le match contre la Norvège depuis le banc de touche, en liaison avec le sélectionneur qui suivra le match évidemment devant la télé. Et il est prévu que Didier Deschamps prenne l'avion le lendemain de France-Norvège pour retrouver le groupe, un groupe marqué mais forcément encore plus soudé et uni après cette triste nouvelle.
Merci Flo. Donc pas de Didier Deschamps sur le banc face à la Norvège, Vincent.
Écoute, le Moscato Show présente ses condoléances à Didier, parce que c'est vrai qu'on est avec lui. Quand tu perds ta mère, tu vois, c'est pas tu perds pas ton chien, quoi. C'est dur.
Ah bah c'est vrai, mais c'est des belles condoléances, dis donc. Allez, tout de suite, les Bleus ont un nouveau guide.
RMC, le Super Moscato Show.
Toucher les étoiles, réaliser ses rêves.
Une image assez qui.
Et surtout écrire sa propre histoire.
On fait partie de l'histoire, mais on n'est qu'un chaînon de l'histoire.
Kylian Mbappé n'avait que 16 ans lorsqu'il a débuté dans le grand monde.
Eux, ils sont arrivés sur le tard, mais ils ont démarré tôt aussi.
Une petite décennie dorée.
Qui est redevenu leader de premier, alors qu'il a fait quasiment un cheval seul.
Un chemin tout tracé.
Comment on pourrait dire ces gens qui partent sur la route, pas les évangélistes, mais presque, non? Comment on pourrait les appeler?
De Bondy au Real Madrid.
Kylian Mbappé a pris un gros risque d'aller au Real Madrid.
De ses premiers exploits d'enfant.
On dit souvent qu'un sportif, c'est un enfant déguisé en adulte.
Jusqu'au sacre suprême.
Il faut quand même rendre à César les travaux de enfin le Breaking News.
C'est réalisé sans trucage, vous le savez.
Par contre, des fois, Petit prend des coups de poing dans la gueule en plein
il a fait cheval seul. Il a fait cheval seul.
Il prend de ses droites des fois dans les gencives.
Donc Kylian Mbappé est très bien entré dans sa Coupe du Monde. Déjà 4 buts. Il se comporte en leader. Il a étouffé les critiques sur son exemplarité, parfois douteuse, même en tant que capitaine des Bleus. Alors, on vous pose la question. Mbappé est-il enfin un bon capitaine? 32-16. Le hashtag RMC Live sur Twitter et WhatsApp 06 12 424 424. Alors évidemment on voudrait votre avis, hein, appelez au 32 16, parce que c'est vrai que certains estiment encore que c'est pas forcément le meilleur capitaine pour les Bleus. En tout cas Florent, il fait l'unanimité au sein du groupe France, hein.
Oui, on a un Kylian Mbappé, c'est vrai, pleinement investi dans cette compétition et sur et en dehors du terrain. Il y a une petite scène qui, je pense, a fait sourire, je sais pas si d'ailleurs tu l'as vu, Vincent, mais c'est une scène qui en dit long sur son implication globalement. C'est à Philadelphie, juste avant la reprise du jeu, où il coach un peu, où il donne des ordres au personnel qui est chargé de passer la raclette là pour enlever l'eau, en tout cas soigner la pelouse gorgée d'eau. Donc il était très attentif et c'est vrai que il est aux petits soins et aux petits détails sur cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé, dans la vie de groupe aussi, on nous décrit un capitaine proche de ses coéquipiers, de bonne humeur, qui s'entend bien avec tout le monde et qui prend son rôle de capitaine à cœur. On l'a vu avec le dossier des primes de match qu'il a bien géré. Il prend la parole dans les moments importants. Évidemment, le moment de l'interruption de France-Irak, des moments dans l'intimité du groupe, comme ça a été le cas hier lorsque Didier Deschamps a annoncé qu'il était endeuillé, ou tout simplement dans l'attitude de chaque instant, où il montre, et c'est vrai que c'est perceptible, c'est visible à l'entraînement, qu'il est totalement impliqué. Il avait par exemple pris de la hauteur lors d'un petit match amical après France-Sénégal. Il s'était mis près des vidéastes de l'équipe de France pour regarder ses coéquipiers jouer. C'était une scène qui avait beaucoup fait sourire, notamment les suiveurs des Bleus qui étaient juste à ses côtés. Enfin, on a le sentiment qu'il est déterminé parce que c'est sa compétition et qu'il est revanchard par rapport à un épisode de l'Euro 2024 où il avait été fatigué, agacé, ce nez cassé, presque le sentiment qu'il aurait dû partir et quitter ses coéquipiers. Donc voilà, on a un Kylian Mbappé en mission qui également prend la défense de ses coéquipiers quand il le faut. C'était le cas autour de Ousmane Dembélé où il a été vraiment à ses côtés, critiqué mais souvent rassuré par le capitaine qui joue vraiment plus que jamais le rôle de grand frère dans cette équipe de France.
Et c'est vrai qu'on avait discuté, hein, son brassard donné par Didier Deschamps alors qu'il y avait encore Griezmann dans l'équipe, et depuis globalement son attitude. Est-ce que tout ça c'est fini, Vincent? Est-ce qu'il est enfin pour toi un bon capitaine des Bleus?
Non, mais il a toujours été, avec des hauts et des bas, des polémiques, parce que bien entendu on aime bien châtier ce qu'on a beaucoup aimé, et donc lui, avec l'histoire du PSG, ça a retenti un peu sur sa carrière professionnelle. Le PSG qui gagne la Champions League sans lui, donc automatiquement c'est à cause de lui qu'on ne gagnait pas, le PSG ne gagnait pas à cause de lui, puis il a gagné énormément d'argent, donc automatiquement tu prends du bashing dès que t'es un peu moins bien. C'était un bashing qu'il y avait contre lui qui était terrible. Il y a eu cette histoire de cette nana, cette image, c'est de dans le nord là, quand il était parti en vacances
en Suède,
un truc qui s'est dégradé en Suède, ça s'est dégradé, son image s'est dégradée. Mais après, c'est vraiment, il a il a pas gagné. C'est pas l'Euro 2004. Hein, t'inquiète pas, il est pas revanchard par rapport à ça. Lui, il est en souffrance. C'est pas on est deux Champions League du PSG. Mais il est resté 7 ans. Mais est-ce que vous vous rendez compte, pour un mec de son calibre, de partir et que le PSG gagne en jouant très très bien au football, lui qui est le roi du football gagne très très bien, mais là il veut gagner la Coupe du Monde pour mettre les compteurs à zéro, en marquant le plus de buts possible. Que ce soit un bon capitaine, j'en doute pas, c'est un leader naturel parce qu'il a du bulbe en plus. Je pense que c'est un des qui a le plus de bulbe, et comme Adrien Bledi, il parle anglais, espagnol, comme moi, pareil,
italien aussi.
Donc, italien, allemand, il parle tout, d'ailleurs il parle tout, il craignait probablement. Écoute-moi, je pense que c'est un mec qui est un grand capitaine, un grand joueur de football. Alors, il a sûrement des lacunes en défense, on le dit. Et bien sûr, en défense, il s'accroche pas trop.
Il commence un peu.
Il essaie de faire l'effort. Mais que ce soit un rameteur, un mec qui est au milieu, qui a une personnalité, je suis persuadé. Et quand on me dit, oui, mais Giroud, il a fait. Oui, mais il n'y a pas photo. Giroud, il a le charisme. Il est adorable. Mais entre Mbappé, mais tous les jours, je mets Mbappé capitaine.
C'est Lloris, oui. Pas Giroud. Non, mais après, juste.
Non, pas Giroud. C'était. Non, je me trompe complètement. Griezmann. Antoine Griezmann. Et lui, capitaine, quand tu vois qu'il y a eu des débats, mais ça décollait. On se fout de qui pour être capitaine? Qui tu prends si t'es entraîneur? Mais des gars comme ça, on les connaît tous, on les a vus dans les groupes. Griezmann était un joueur magnifique. Mais tu sais, capitaine, c'est Mbappé. Il n'y a pas photo, une seconde.
Après, juste les critiques de Mbappé en tant que capitaine, ça n'a pas vraiment de rapport ni avec le PSG, ni avec l'argent qu'il gagnait. C'était en tant que capitaine. Est-ce qu'il avait une attitude de capitaine?
Par rapport à son
comportement. Il y a plusieurs volets dans
sa dégradation de son image. Ensuite, lui n'avait pas, en tant que joueur, une attitude fédératrice. Donc, pour un capitaine, c'est dérangeant. Ensuite, il y a eu le déplacement en Azerbaïdjan.
C'est ce qu'on dit.
Je rappelle que les polémiques sur son brassard, c'est vraiment en équipe de France. Ça n'a rien à voir ni avec son salaire ni avec le PSG. Refusé d'aller en Azerbaïdjan finir les qualifs, au contraire du reste de l'équipe, c'est pas une attitude de capitaine. Donc c'est toi qui le juge, Pierrot.
C'est un attente avec des gens. C'est toi qui le juge. Ça, c'est une appréciation personnelle, Pierrot.
Oui, mais je suis pas le seul.
Mais quand même, de tes appréciations personnelles, c'est pas la.
Je suis pas le seul, Vincent. Arrête,
mais
dire,
t'es pas le seul qui. Il y a Daniel Riolo qui. Non mais arrête.
Je ne pense pas que l'ensemble des supporters de l'équipe de France trouvaient que jusqu'ici il avait l'attitude qu'il a actuellement.
Les suiveurs de l'équipe de France, les supporters, est-ce que c'était pas acquis à l'intérieur du groupe qu'il n'y aille pas?
Je crois que c'était pas acquis qu'il soit capitaine quand Lloris a pris sa retraite. Oui, ça c'est sûr que c'était pas acquis que ce soit pour lui.
Je parle de l'Azerbaïdjan. Tu me parles de l'Azerbaïdjan.
Est-ce que c'est pas la place d'un capitaine d'aller en Azerbaïdjan?
On a le droit de poser la question quand même. Oui, mais on peut pas poser la question en disant, en état affirmatif et en disant, en sous-entendant que c'était pas normal. Ah, là, c'est plus une question,
si la question se pose, c'est parce que ça va pas de soi. Bon, bref.
Peu importe.
Oui, mais cristallise. Moi, je pense que tu as un peu raison, Pierrot, mais
c'est qu'il y avait des débats. Arrêtez de focaliser sur moi.
Non, mais c'est un fait qu'il aurait dû y aller.
Il y a raison ou tort.
Sur le fait qu'un capitaine doit montrer l'exemple par rapport à un groupe et que là, il a profité d'une fenêtre pour se reposer ou pour prendre 3-4 jours de vacances, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Je suis d'accord avec toi en tant que capitaine.
Oh, ça, c'est le chapeau.
Non, mais je peux le comprendre. Je veux dire, après, qu'il se soit entendu avec Deschamps parce que ça l'a rangé physiquement, j'en sais rien,
Revenons à la Coupe du Monde. Vous voyez bien, quand même, une attitude qui est totalement différente là, dans cette Coupe du Monde.
Mais moi, je pense que là où tu exagères, c'est que je pense qu'il y a toujours une bonne attitude. Moi, je ne sais pas, moi. Un capitaine, c'est les joueurs qui décident. C'est un leader naturel. C'est un gars qui va responsabiliser ses joueurs, ces joueurs vont le suivre jusqu'au bout du monde. Et t'as jamais eu de problème à l'intérieur du groupe. C'est là où je suis pas d'accord avec toi.
Moi, pour moi, il y a eu un problème avec Griezmann quand même.
Mais Griezmann, c'est lui qui a fait un problème. C'est pas Mbappé qui a fait un problème. Griezmann, il voulait le capitanat, il est revenu de droit à dire à Mbappé. Mbappé, il a pas dit je veux le capitaine. Bon. Le capitanat, toi tu le crois?
Bah oui.
Non, moi je crois pas. Je crois que c'était naturel.
Mais même, s'il a dit je veux le capitanat, il a raison de l'affirmer. Mais nous, on préférait le donner à un moyen-âge comme ça, comme Griezmann, voilà.
Ah, une légende de l'équipe de France quand même. Griezmann, c'est pas un moyen-âge.
Non, c'est pas une légende par rapport à Mbappé. Dans 50 ans, tu ne te rappelleras pas de son nom.
Juste pour finir, par rapport à ce rôle de capitaine, je trouve que là où il n'est pas attaquable, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Mbappé, là où il n'est pas attaquable, c'est qu'il a toujours assumé ses choix et ses actes. C'est là où il est quand même très brillant et très fort. Après, tu peux ne pas l'aimer par rapport à ce qui s'est passé au PSG, par rapport à plein de choses.
Oui, ça mérite au bout de tout. Mettez ça de côté parce qu'il n'y a pas que les supporters du PSG qui remettent en cause cette question.
Oui, mais son image,
elle
a brillé par rapport à ça.
Je pense que son image a brillé à cause de ça et que finalement, en équipe de France,
l'attitude individualiste, il l'a eu. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Et donc, est-ce qu'un individualiste peut être capitaine des Bleus? C'est ça la question.
Et c'est exactement ça, en fait. Pourquoi il y a polémique ou il y a questionnement sur Mbappé? C'est parce qu'il a ce côté tellement individualiste que finalement, les choix qu'il fait, que ce soit de ne pas aller à un endroit ou d'essayer de négocier des jours de repos, c'est parce qu'il pense avant tout à lui. Et c'est ça qui nous pose problème. Parce que quand t'es capitaine, on pourrait imaginer que quand t'es capitaine, t'es aussi là pour le collectif. Donc c'est pour ça qu'on a remis en question. Mais pourquoi on le critique pas là depuis le début de la Coupe du Monde? Parce que en fait, ça passe, son leadership, lui, il passe par ses performances. Ce qui n'était pas le cas de Lloris. Quand t'es gardien, tu peux pas gagner ton rôle de capitaine par tes performances. T'es dans les cages. Donc forcément, ton rôle est différent. Et pourquoi aujourd'hui, on se pose la question? Parce que il a démontré sur le terrain qu'il était là. Et en plus de ça, il a mis un peu d'eau dans son vin. C'est-à-dire qu'il défend ses coéquipiers qui sont critiqués en conférence de presse. Comme Dembélé. Quand on lui parle de son record de but en disant que est-ce qu'il est là pour battre son record de but personnel et la concurrence face à Messi. Eh bien, lui, comme il est malin comme un singe, eh ben, il recadre systématiquement là sur l'objectif collectif. Mais cette petite...
Qui est peut-être sincère
petite
d'ailleurs.
Musique, hein, oui. Mais c'est forcément sincère. Mais cette petite musique d'un joueur individualiste, elle reviendra à un moment parce que c'est lui en fait. Parce que c'est lui. Et pardon, j'ai été regarder parce que je me demandais. On lui a donné le capitanat il y a 3 ans. Il avait 23 ans. Il y avait aussi l'âge. 23 ans, capitaine de l'équipe de France, sachant que t'es le leader t'es aussi le leader sur le terrain. J'ai été regarder. Lloris, il prend le brassard à 26 ans. Et Zizou, il prend le brassard à 28 ans. Il y a aussi cette question de...
Non,
de jeunesse,
pas.
Même si,
je pense
même si il est mature,
non, il y a des joueurs qui sont
il pense avant tout à lui.
Après, il a débuté sa
mais bien sûr.
En équipe de France,
oui,
sera
17, beaucoup plus tôt.
À 18 ans. Non.
Zidane,
ah, exactement.
Mais non, mais je suis pas d'accord avec toi, il n'y a pas d'âge pour être capitaine. Je pense que naturellement.
Mais ça dépend de la maturité.
Il était mature.
Mais ce que je veux dire, que
mais
quoi qu'il arrive. Et moi, le débat face à Griezmann, ouais, il se pose en fait.
Bah, il se pose aujourd'hui. Plus du tout aujourd'hui.
Mais à l'époque, il se posait.
Il est un meilleur capitaine. Ça peut aussi être une explication. Hein. Philippe au 32-16. Bonjour Philippe.
Salut Philippe.
Salut l'équipe.
Salut Philippe. Est-ce que Kylian Mbappé est enfin un bon capitaine des Bleus?
Bah, je dirais que c'est un meilleur capitaine. En effet, est-ce qu'il se tourne un peu plus vers le groupe? Mais alors, bon, moi, je suis pas parisien du tout. Au contraire. Donc je l'aime beaucoup en tant que joueur, je l'aime un peu moins en tant que personnage, mais je trouve que ouais, sa personnalité finalement, il parle tellement de tout, enfin il s'exprime tellement sur tout, que je trouve que ça le décentre sur le du groupe vraiment en France de l'équipe, et c'est en ça où moi ça me gêne un peu dans un rôle de capitaine. Où ça l'éparpille finalement, et c'est vrai que quand ça s'est posé le débat avec Griezmann, moi j'étais plutôt pro Griezmann parce que je trouve que lui, bah, de par son expérience en équipe de France, de ce qu'il a fait déjà à l'Euro 2016, etc., de l'expérience qu'il avait, je pensais qu'il était beaucoup plus légitime que Mbappé. Après aujourd'hui, quand on regarde le groupe, je me dis aussi, si on le met pas lui, qui est-ce qu'on met en fait? Et je trouve qu'il y en a
c'est sûr que dans le groupe actuel, c'est le plus légitime. Hein.
Oui. Bah, il est contestable. Ouais.
C'est en ça où aujourd'hui, je pense qu'il le mérite. Enfin,
après, c'est fou, Philippe, ce que tu dis, parce qu'on reprochait à Lloris, justement, de ne jamais rien dire, jamais prendre de risques. C'était les reproches qu'on faisait à Lloris. Dans le Moscato Show, il était coutume de dire, il est un peu transparent et tout. Et le jour où on a un capitaine, bah, qui ouvre un peu sa gueule, parfois sur tout, sur rien, et pourquoi pas, eh ben, on le critique. C'est fou, en fait. On n'est jamais content.
C'est faux. On aimait beau. Non, mais c'est faux. Nous, des fois, on faisait des raisonnements. Mais la plupart des gens, 80% des gens, aimaient bien Lloris. Parce qu'ils étaient une carpe, ils disaient, mais 80% des gens, et par rapport à Mbappé, ils aiment pas Mbappé,
pas
le
sûr,
côté
hein.
grand. Moi, quand il prend des avis sur Naël et compagnie, moi, ça me plaît pas. Mais moi, je respecte Mbappé parce que ça fait partie de sa personnalité et son truc. Et qu'il a le droit, c'est pas parce que c'est
sportif
qu'il n'a pas le droit d'avoir une opinion et d'avoir. Parce qu'il fait partie de la cité, quand même.
Ouais, mais avant
ça t'exclut pas de la cité.
Il est capitaine sur le terrain.
Oui,
et ce qui déplaisait à des gens comme moi, par exemple, c'est que le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'attitude qu'il a dans cette Coupe du Monde, elle est bien meilleure que celle qu'il avait ces trois premières saisons.
J'ai l'impression qu'il a appris
quand même de quelques erreurs qu'il a faites dans le passé. C'est qu'aujourd'hui, il est plus tourné vers son équipe, il me semble.
Et puis Pierrot, maintenant, le positionnement de Mbappé, c'est avec les médias qu'il y a, c'est plus être capitaine il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans.
Sûr.
C'est beaucoup plus dur. T'es observé sur toutes tes coutures. Hein.
Vous avez entendu l'alerte. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire à la prime de match d'RMC.
C'est bon pour
vous. Vous envoyez but, vous avez 10 minutes donc au 7-32-16. La prime de match actuellement, je vous la redonne, elle est de 40 000 euros. C'est important puisqu'à chaque but inscrit, on rajoute 500 euros. Et que si on vous appelle, eh bien vous devrez donner le montant exact. Le montant est actuellement de 40 000 euros. 40 000. Le tennis dans un instant. Serena Williams de retour à 44 ans. Est-ce que ça plaît à Sarah Pitkowski, à votre avis?
Non,
mais bien sûr.
Dans un instant.
Oh non, mais c'est grave. 15h29. Le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h33, on y revient au Mastic avec Denis Charvet, bien sûr, Sarah Pitkowski, Adrien Egouem, au petit Pierrot, dans demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Alors, dans une demi-heure, nous allons parler du Stade Toulousain avec un quatrième titre consécutif. Cette génération deviendrait-elle la meilleure équipe de l'histoire du championnat de France? Vincent règle le problème. Il vous reste quelques minutes pour vous inscrire à la prime de match RMC et tenter de gagner une somme de 40 000 euros, alors qui va encore augmenter, hein, bien sûr, puisqu'à chaque fois qu'un but est inscrit dans la Coupe du Monde, on rajoute 500 euros. Mais au moment où on vous appellera pour vous demander le montant de la prime, il faudra donner le montant exact du moment. Donc actuellement, c'est 40 000 euros. Et pour vous inscrire, c'est BUT, B-U-T, par SMS, au 732-16.
Pour répondre aux appels masqués, ça c'est important.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parfois, vous avez peut-être tendance à filtrer pour éviter les vendeurs de panneaux solaires. Surtout, mais là, ça peut être 40 000 euros au bout du fil.
Surtout si vous avez quelqu'un à côté. Hein.
Allez, le tennis.
Tu veux qu'on en parle?
Le cri de gueule du Super Moscato Show.
Serena Williams disputera Wimbledon en double et en simple la semaine prochaine. Elle aura 44 ans, elle n'a plus joué sur le circuit depuis 4 ans. Pourquoi un cri de gueule, Sarah?
Ah bah, vous me voyez venir. Vas-y. Déjà son retour en double, j'étais plus ou moins sceptique, mais là, le fait qu'elle ait obtenu une wildcard à Wimbledon, je m'interroge parce qu'en fait, je me dis que c'est pas bon pour le tennis féminin, cette histoire. Tu le disais, Pierre, son dernier match, c'était l'US Open en 2022. Son dernier titre dans un tournoi, pas un tournoi du Grand Chelem, c'était il y a 6 ans, c'était en 2020, c'était en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'était à Auckland. Aujourd'hui, elle a 44 ans, elle a 2 enfants. Bon, c'est pas le fait qu'il y ait 2 enfants qui me perturbe, c'est le fait qu'elle veuille revenir sans avoir joué le moindre tournoi en simple. C'est-à-dire que elle s'est juste entraînée, peut-être très bien entraînée, mais si elle joue à Wimbledon et que par je sais pas quel miracle elle gagne un tour à Wimbledon, eh bien là, je me dis en fait, c'est super mauvais pour le tennis féminin. C'est pas rassurant. Ça voudrait dire que depuis qu'elle a quitté, il y a 4 ans, le circuit, déjà à 40 ans, le tennis n'a pas si évolué que ça.
Mais c'est pas de
et
sa
quand
faute.
On voit. Ah ben non, coup, j'ai pas dit que c'était de sa faute. J'ai dit. Non, mais j'ai pas dit. C'est pour ça, tennis, sa reprise. Ouais, exactement. Moi, ma question aujourd'hui, c'est pas bon pour le tennis féminin de voir ce type de retour.
Non, mais parce pour que.
Mais pour elle, j'ai envie de dire, oui, tu sais, j'ai lu, elle dit à Andy Murray, est-ce que toi, il te manque le tennis? Lui, il a répondu, non, ça va, tout va bien. Et elle répond, qu'est-ce que ça me manque? Donc, elle y va, parce qu'effectivement, le tennis lui manque. Mais enfin, elle peut faire des exhibitions, elle peut se mettre au pickleball, elle peut se mettre au paddle. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Mais le fait de revenir sur le circuit sans avoir joué le moindre match officiel en simple et de prendre la place quand même avec une invitation dans le tournoi. Moi, je trouve que derrière, comme Sabalenka, qui est quand même un petit grain de folie, elle est quand même un peu, elle a quand même un problème psychologique. Rybakina, qui a le charisme d'une huître. Świątek, qui depuis ses titres à Roland-Garros, et Coco Gauff, qui a des soucis techniques. Eh ben, je parle de manière générale du tennis féminin. Si elle revient et qu'elle gagne un match, elle va prendre toute la lumière de ce tournoi. Mais c'est pas bon pour le tennis féminin. À 44 ans, pardon, ça voudrait dire que le circuit n'a pas tant évolué que ça. Donc c'est pour ça que mon cri de gueule, c'est un peu, oui, ok, toi tu te fais plaisir, mais attention, l'effet boomerang sur le niveau du tennis féminin, ça va pas être positif du tout.
Alors positif ou pas positif, le retour de Serena Williams, Vincent, est-ce qu'elle t'a convaincu, Sarah?
Non, enfin, c'est pas, je comprends ce que tu veux dire, mais moi je parlerai d'elle. Elle a envie de revenir à son meilleur niveau. On va voir si elle en est capable. La longévité, le plaisir, on le dit souvent. Moi, je le dis de première main. Tu vois, si vous continuez le plus longtemps possible. Et puis après, vous verrez bien. Parce qu'après, c'est difficile de revenir. Bon, mais elle revient parce que c'était un phénomène. Mais c'est vrai que tu peux. Je comprends ce que tu veux dire. Je le comprends, Sarah. Mais pour pour elle personnellement, je parle pas pour le tennis en général, si elle a envie qu'elle présente, on va attendre. Si elle vient qu'elle explose comme un popcorn, ben ça sera un retour caché. Et alors je dirais bon ben c'est pas bien ce qu'elle a fait. Mais si ça marche un peu, ben je dirais bravo, quelle abnégation, quel travail elle a fait pour revenir à 44 ans. Elle est passionnée, elle a encore envie. Parfois personne ne l'empêche. Et que médiatiquement le tennis féminin réagisse par rapport à ça, parce qu'ils sont contents de revoir quelqu'un de charismatique, parce que actuellement
mais
ça fait longtemps que c'est comme ça. Le tennis féminin a toujours été quand même plus ou moins, à part les grandes stars, Navratilova et tout ça, il n'y a pas eu quand même de grandes stars. Il a toujours été dans l'ombre du tennis masculin. Donc moi je dis pour elle, bravo, il faut que ça se passe bien, autrement elle sera trompée. Mais je pense qu'elle ne se trompe pas. Et j'ai dit, si elle veut se faire plaisir et jouer à très haut niveau, eh ben pourquoi pas.
Alors pour le coup, la vie de Sarah, c'est que ce serait dramatique qu'elle gagne qu'elle perde. Hein.
Alors,
Denis,
moi pas du tout. Je comprends comme Vincent ce que dit Sarah, mais en même temps, moi je pense que l'image de pour le tennis, ça donnerait une belle histoire. Au contraire, alors moi je suis pas tout pour les retours, moi.
Éphémère.
Oui, mais tant pis. Il faut le prendre. C'est déjà bien. Je veux dire, je trouve ça attachant. Après, j'ai toujours détesté les retours des grands champions, parce que j'ai toujours aimé les grands champions au moment de leur gloire.
Et t'es souvent déçu quand tu les vois revenir.
Il y a eu tellement d'exemples. Borg, quand il revient, qui se fait battre, c'était pathétique. Il y a eu Jordan qui revient à Washington. Pareil, il revient, il veut revenir.
Benoît qui se met la chanson.
mais en Formule 1, le retour de Schumacher était raté.
Oui, mais tu vois, donc ça, j'aime pas ça. Moi, je suis contre ça, parce que je pense qu'à un moment, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter, mais je comprends quand même qu'un grand champion, eh bien, il a encore envie d'être sur le terrain malgré son âge. Je trouve que c'est une belle histoire, même si ça peut paraître pathétique, je trouve que c'est une belle histoire.
Ce que dit Sarah, que si elle gagne, ça sera terrifiant pour le niveau du circuit.
Elle exagère un peu. Moi, je trouve que c'est exagéré parce que
derrière, qu'est-ce qu'elle va faire? Enfin, et elle aurait raison dans l'absolu. Elle va demander d'autres wildcards et je vous mets ma main à couper. Et à l'US Open, elle va jouer. Mais alors. Mais non,
ça n'enlèvera rien, il n'y a rien au tennis féminin. Bon, ça n'enlèvera rien.
Oh non, tu ne peux pas dire ça.
Il y a eu un Roland Garros d'un très bon niveau quand même.
Mais Sarah, ton sentiment là, on ne connaît pas quel est son niveau là, mais bon, comme tu dis, si elle revient, c'est qu'elle a dû s'entraîner dur et qu'elle estime être à un niveau minimum. Est-ce que tu l'estimes capable de passer 2-3 tours à Wimbledon? Est-ce que c'est du domaine du possible,
deux, trois ça tours, c'est du domaine du possible. Je dirais que sur un premier tour où elle joue une fille qui est entre 80 et 100, même pas une qualifiée, hein, je dis une fille entre 80 et 100, c'est qu'en fait, ce match, il va probablement... Alors, ils vont peut-être pas me mettre sur le center court, mais ils vont la mettre sur un grand court, quoi qu'il arrive. Hein. Que la fille en face. Oui, mais le center court, quand tu connais pas son niveau, tu prends quand même un petit risque. Hein. Et finalement, que la fille en face, elle va être tellement impressionnée par l'aura de Serena Williams que ce sera peut-être même plus une histoire de jeu de tennis, et qu'il va y avoir un ascendant psychologique qu'en face, la fille, elle peut être morte de trouille ou tellement impressionnée qu'elle va même avoir. Et elle peut être inhibée sur les premiers jeux et que faisant, elle peut aller gagner le match. Et elle choisit la surface du gazon parce que c'est une surface où tu fais moins d'échanges et qu'avec un excellent service, tu peux quand même ramasser pas mal de points gratuits. Et la surface conviendrait à un potentiel retour.
On va suivre.
On a eu des champions comme ça, Pierrot qui sont, Sarah qui sont redevenus à haut niveau, revenus à haut niveau.
Chez les filles. Au tennis. Le tennis, l'exemple, ça va être Kim Clijsters. Mais Kim Clijsters, elle revient après une première grossesse, mais elle revient à 26 ans. Ouais, et elle gagne l'US Open en 2009. C'est-à-dire que là, je lisais, on est en train de faire comparaisons avec Kim Clijsters. Mais ça n'a rien à voir. Regardez, vous avez cité, comment s'appelle-t-il, le joueur de golf? Pardon, je viens d'avoir un trou de mémoire. Tiger Woods, ça a été une catastrophe, ses retours. Ça a été une catastrophe.
Il était blessé, il était blessé au dos.
On arrête là, merci Sarah. Et c'est lundi à Wimbledon, donc on va voir le retour de Serena Williams dans le Super Moscato
Show. Vendredi,
on suivra ça.
Vendredi, on aura tirage au sort.
C'était super, Sarah. C'est vrai
qu'il y a un peu long. Très bonne année. Bon, bon de gueule, Sarah.
Bravo. On parie sur RMC.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Christophe Payet. Il y a beaucoup de matchs, parce qu'on arrive sur les troisièmes matchs de Coupe du Monde. Et donc, on a double ration. Hein.
Oui, il y a six matchs. Il y a trois groupes qui jouent et les équipes du même groupe jouent à la même heure, évidemment. On va s'intéresser à Écosse-Brésil. C'est la plus belle affiche, c'est à minuit. L'Écosse a trois points et a besoin d'un nul pour se qualifier. Le Brésil a 4 points, déjà qualifié, mais a besoin de gagner pour être premier du groupe. Le Brésil, c'est 1,32. Le nul, c'est 5,60. La victoire de l'Écosse, c'est coté à 8. L'Écosse a battu Haïti 1-0, perdu contre le Maroc 1-0. Et le Brésil, c'est 1-1 contre le Maroc et 3-0 contre Haïti. Moi, je vois le Brésil s'imposer avec, pourquoi pas, Vinicius buteur et... sans encaisser de but, c'est coté à 3,95. Bon. L'attaque écossaise, hein, c'est un but en deux matchs.
Là, j'ai quelque chose pour toi, Vincent.
Ah, le Brésil marque sur penalty.
Le Brésil marque sur penalty. Tu as regardé la cote? C'est aux alentours de 3, généralement.
Parfait.
On va regarder ça, mais ça sera
gagné sur penalty.
Moi, c'est Brésil avec deux buts d'écart et but de Vinicius.
Voilà. Brésil avec but de Vinicius plus deux buts d'écart, c'est coté à 3.
Merci Christophe.
Bon. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'est l'heure du journal moyen. Première édition.
Alors restez bien là. Après les aventures de Vincent et ses SMS qu'il envoie à des mauvaises personnes pour des problèmes techniques, on va dire. La nouvelle anecdote sur Vincent et la technologie et la technique. Une histoire de carte bleue que Eric Dimeco nous a vendue. Une histoire de paiement sans contact. Mais c'est extraordinaire.
Ça s'appelle un doulos. C'est une balance.
C'est Eric. Une balance. C'est vrai que je vais même vous diffuser le message.
Le doulos.
Je vais même vous diffuser le vocal qu'Éric Dimeco nous a envoyé dans le groupe.
Mais quel collabo. C'est la com Lucien. C'est un vrai collabo.
Allez, on revient tout de suite. T'as des ressources magnifiques, Vincent.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
15h47, le Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aiguin, première édition.
À la une du journal moyen, première édition aujourd'hui sur RMC, l'actu, la culture, les médias, révélation sur la vie privée du Moscato Show, une histoire de carte bleue de Vincent, c'est magnifique. Le projet fou de la construction d'un stade en Grande-Bretagne, et puis double mâchoire paralysée, pas une mais double, dans les grandes gueules. Vous écoutez RMC? C'est le 2714e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
La vie privée du Moscato Show, je sais que vous aimez ça. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on aime vous raconter nos petits dossiers privés. La semaine dernière, je vous racontais que souvent Vincent envoie des SMS en ce moment aux mauvaises personnes. Quand on lui envoie la fiche de quelqu'un avec le numéro et le nom, il croit lui écrire, mais en fait, il nous répond à la fiche. Donc, c'est nous qui recevons le message. Ça arrive. Moi, il m'a pris pour son dentiste. Un jour, il m'envoie un message.
Ça arrive à tout le monde.
Il me dit salut.
Oui, ça arrive.
Il me dit salut. J'ai mal à l'oreille. Est-ce que c'est à cause de ma dent? Voilà. Tant qu'il écrit au dentiste, ça va. Et vendredi, suite à notre petit séjour express à Marseille, Eric Dimeco a passé du temps avec Vincent. Il a même emmené à l'aéroport en scooter. Et Eric en a encore appris une très bonne sur Vincent. Une histoire de carte bleue et de paiement sans contact. C'est extraordinaire. Eric nous a envoyé même un vocal sur le groupe WhatsApp du Moscato Show. Je me permets de vous le diffuser, ce message vocal. Il s'adresse à moi. Ça commence à Adrien, il faut que je t'en raconte une. Elle est magnifique. Et puis Vincent, tu vas t'expliquer parce que là, ça te demande explication.
Adrien, j'ai une meilleure à te raconter qu'il faudra qu'on raconte lundi, enfin mardi, puisque moi je suis pas là lundi. Vincent, il a pris en photo sa carte bleue et il essaie de le passer sur les trucs sans contact, tu sais, parce qu'il croyait que c'était avec la photo que tu pouvais payer avec le téléphone. Voilà, encore notre génie national.
Bon, est-ce que c'est vrai? J'en transpire, c'est trop
d'amitié.
Bon. Donc t'avais
payé. Mais
non, mais... vas-y.
Mais oui, mais parce que quand je voyais les cartes, je voyais les photos, ça, moi, des trucs. J'ai dit, en faisant une photo, mais pourquoi pas? Tu vois bien quand tu fais, mettons là, Il y a des fois, il y a des trucs qui marchent comme ça. Mm-hmm. Tu vois, quand tu as l'avion, le billet d'avion, tu as une photo sur ton truc. Tu vois, ça peut marcher, tu vois.
Ouais, mais t'imagines le nombre de vols de cartes qui auraient suffisait de faire la prendre.
Les marabouts, les voyantes, ils te demandent une photo de l'être aimé, des fois. Ouais. Ça marche.
Et donc, moi, j'ai essayé, je vais te dire, même mieux. J'ai essayé à la machine à café. Alors, j'étais là, je la passais devant, comme
c'est
ça.
Incroyable.
Il n'y a rien qui tombait. Mais qu'est-ce que c'est ce truc, là, comme ça? Alors, moi, je voyais Denis arriver avec son truc. Qui faisait ça, je disais rien moi Denis, je n'osais pas demander. Denis passait avec son truc, putain. Je dis moi c'est pareil. Alors j'avais fait une photo comme ça, tu sais, dans les toilettes, au fond, crac, je passais le truc, mais ça marchait pas.
Ça marchait pas.
Oui, mais voilà. Ça a dû arriver à d'autres, je te le dis.
Oui, mais imagine le nombre de vols de cartes qu'il y aurait s'il suffisait de prendre en photo la carte d'un copain là, tu t'es pensé quoi. Au niveau sécurité, c'est arrivé à d'autres,
mais à quelle moyenne d'âge c'est arrivé?
Allez, arrête de faire la judge,
non, mais là c'est.
Toi,
oui, non.
Ah non, mais toi t'es l'autre mec, quoi, tu t'y connais tout en informatique et tout ça, toi t'es la meilleure. Toi,
les grandes gueules, j'ai écouté les grandes gueules. Bravo Vincent, c'était très bonne celle-là. 9h30 sur RMC, RMC Story. Une première, une double mâchoire paralysée pour Didier Giraud, l'agriculteur. Sujet d'entrée de jeu dans les grandes gueules sur la climatisation en France. Double mâchoire, il y a une première, la deuxième est magnifique.
Didier, je te voyais hausser la moustache là pendant que t'écoutais Marine Tondelier.
Les propos de Marine Tondelier.
Et ils sont pas d'accord entre eux d'ailleurs, hein, les écologistes.
C'est de la connerie de faire de la politique là-dessus, quoi. Enfin, moi, aller politiser ce débat et aller faire
politiser. Merci.
Ce débat et faire du mire. C'est...
Oh. Bon, allez, politiser le débat et faire du misérabilisme sur le fait que.
C'est pas passé, Didier, là. Là, c'est pas passé, c'est comme ça.
Mais donc.
Alain,
il croit qu'il peut se permettre de reprendre des gens là-dessus.
Ah oui, très bien. Alors, courage à Didier, parce que là, c'est la canicule en France et agriculteur en plein cagnard, le tracteur, Vincent, ça doit être une épreuve.
Non, eux, ils m'ont fait.
Ça doit être une. Bon courage à Didier et à tous les collègues agriculteurs. Ou les gens qui sont sur les toits, par exemple, qui font les toitures en ce moment-là. Il faut y aller tôt, là, parce que là, les couvreurs, ça m'offre là.
Ou aux gens qui présentent des émissions de radio au village rugby à Marseille, par exemple. Voilà. Pareil.
Non, mais voilà. Alors là, je vais te dire un truc. Là, on l'a pas dit, mais les corneaux qui ont monté le village, parce que ça s'appelle des corneaux, en plein mois de juin à Marseille, monter le village rugby avec des tôles ondulées sur le toit, c'est honteux. C'est honteux. Non, mais ça, c'est, tu sais quoi, c'est pas comment ils disent à Marseille,
fini parti.
Là, c'est pas fini parti, c'est fini par commencer. C'est fini par commencer. Ça c'est pisser dans un violon pour faire jouer. C'est ni fait ni à faire. Non mais là quand même il faut des génies. Moi de jouer une fille juin à Marseille sous les tôles ondulées. Quelle bande de dandouilles.
Sans transition. Sport et immobilier, un projet fou. Direction Manchester. Jingle Manchester.
Dans ce monde où les gens se taisent, par malheur la raison s'apaise. Les cris désespérés se fassent entendre. Il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de limite à la folie du temps. Quand le bonheur nous surprend.
Par malheur la raison s'apaise.
Eh oui, Canto, légende de Manchester United.
Vous savez qu'un jour quand même, il faudra la décortiquer.
Bah oui.
Non, moi je. Ouais, là,
un peu,
Un peu quand même. C'est
mais j'ai compris ce qu'il a fait. Il a mis des mots qui vont pas tout à fait ensemble en faisant
non,
croire
que ça rime à la fin.
Phrase qui voulait dire quelque chose. Oui. Mais c'est pas ça la poésie, hein.
Non. Et puis quand ça rime à la fin, ça fait pas forcément une poésie. Exactement. Il faut qu'à l'intérieur, il y a des trucs qui descendent, ça a du sens. Ouais.
Manchester United, Vincent, depuis de nombreuses années à Manchester, ils doivent faire face à un problème. C'est surprenant, hein, c'est la vétusté d'Old Trafford, le stade mythique, 74 000 places depuis 1910. Et ça y est, les propriétaires du club ont lancé un projet fou. Le club a annoncé, c'est officiel, l'acquisition de la majeure partie des terrains nécessaires à la construction d'un nouveau stade qui se trouvera à 350 mètres au nord-ouest de Old Trafford. Alors, en plus, ils sont malins, c'est dans les Américains, hein. Projet de 15 000 logements qui vont se créer, 48 000 emplois au niveau local. Dans son communiqué, donc Manchester United estime à 7 milliards de livres l'apport annuel à l'économie britannique généré par ce projet de stade. Le coût de la construction, 2,4 milliards d'euros, mais surtout, c'est ce qui ne se fait jamais plus au monde, parce que pour des problèmes de sécurité, ce stade, ce nouveau Old Trafford, ce nouveau stade de Manchester, 100 000 places, il n'y a plus aucun stade quasiment en Europe et dans le monde pour du foot qui nous propose 100 000 places. Ils vont les remplir.
C'est ça qu'ils le font.
Bah, ils ont fait une petite étude de marché, je pense.
Le New Camp.
Il y a le New Camp.
Quand tu élimines l'ancien stade, il y a toujours une part de nostalgie. Quand
ouais, ouais,
moi,
oui,
je veux te dire, moi, je veux te dire un truc, là, ce parc de Cardiff, Twickenham, un peu de toi, Twickenham et tout.
Jean Bouin, tout le temps.
Eh bien, alors, je vais t'en parler. Jean Bouin.
Il a un vrai charme, hein.
Chaque fois que j'y vais, je regrette qu'il n'ait pas fait quatre tribunes à l'anglaise, tu sais, très haute, qui monte très haute. Mais j'aurais tellement aimé, tu me fais la même contenance, mais en quatre tribunes. C'est-à-dire comme les stades anglais, comme les stades français autrefois, quoi. C'est-à-dire dans l'embut, une tribune dans chaque embut et sur le côté des énormes. Et ça, ça aurait été chouette. Garder un peu d'authenticité. Maintenant, ils se ressemblent tous. T'as pas un stade, tu vois.
Après, il y en a des chouettes, hein, les nouveaux stades.
Oui, même Jean Bouin est magnifique.
Celui de Los Angeles, il est incroyable, là, quand même.
Ouais, Jean Bouin, il est magnifique. Mais bon, il se casse pas trois potes avec Canard, quand
même. Moi,
je te le dis, c'est pas...
C'est le stade de Max Gozzi, donc, pardon.
Non, mais Max, il est super, Max, mais c'est pas si tu... C'est bien, mais l'architecte qui a fait ça, c'est
non,
qui?
Non, c'est beau. C'est très nécessaire, parce qu'il était vraiment vétus, selon ses.
Oui, non, oui. Mais déjà, mais pourrait j'aurais
pas,
aimé.
Il pourrait pas être en top 14, hein,
moi, j'adorais ce grand couloir. On faisait 200-300 mètres à marcher à côté des mecs. À marcher des. Putain, ça, c'était bon. Putain, tu marchais à côté des mecs, là, comme ça.
Et on aurait dit, voilà, franchement, très franchement, Jean Bouin, c'est, donc, c'était stade du stade français champion de France, hein.
Ouais, ouais.
Mais c'était un gymnase mal rénové de Paris 12e, hein. C'était fou, hein. Ça puait la pisse, c'était des crades.
Ah, ça puait, t'as raison, t'allais dans le sol en bas, tu chopais des morbacs, hein. C'était un truc de fou, il était pourri, c'était, tu marchais pieds nus, t'avais des cèpes qui poussaient sur les pieds.
Il y avait une tribune sans siège assis, hein.
Ah ouais, non, mais moi j'adorais.
Oui, en face,
celle du fond, elle était sans siège. C'était un stade, tu sais, un peu à l'ancienne, là, communiste, tu sais, le
truc en béton. C'est pour ça qu'il te plaisait.
Ah merde.
Après, Manchester, le nouveau stade, 100 000 places, je pense qu'ils vont le configurer aussi pour pouvoir accueillir les meilleurs concerts du monde. Hein.
Ah oui.
Là, c'est.
Ah mais non, mais surtout, prix, ouais, mais voilà. Oh, moi, ça me taille maintenant. Les mecs, c'est des chansonniers. C'est des chansonniers. C'est pénible. Au bout d'un moment, les mecs, ils font des concerts, des stades, des compagnies.
Un vrai chansonnier, vous en voulez un? Tiens, alors là, j'en profite parce que là. J'ai un ami, c'est un ami du Super Moscato Show qui fait un spectacle fabuleux dans une salle climatisée. Donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Demain soir au théâtre de la Tour Eiffel, c'est notre ami Fred Zermati qui chante Aznavour. Donc si vous êtes fan d'Aznavour, oui, allez-y. Bon. Répète que la salle est climatisée, pas de problème de canicule. Hein. Ok, 20h30 alors, au théâtre de la Tour Eiffel.
Ce qui est bien, c'est qu'il risque de pleuvoir à Paris. Et ça va faire un bon coup de frais. Et ça, c'est très bon. Par contre, Zermati, c'est notre pote. Hein, c'est
oui,
le petit.
Zermati.
C'est non, le mec. Hein.
Dans un instant, on parle rugby avec 4 titres consécutifs. Le Stade Toulousain deviendra-t-il la meilleure équipe de l'histoire du championnat de France? Bien sûr. Vincent règle le problème.
15h57, le Super Moscato Show. On revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show.